dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs.
Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Henri Texier.
Alors, je suis un monsieur âgé, déjà, un petit peu quand même. Je suis pas très très vieux, mais il y a un moment que je suis plutôt jeune. Je m'appelle Henri Texier, contrebassiste, compositeur, depuis toujours, et chef d'orchestre aussi, si on peut appeler ça comme ça. J'aime bien partager la musique, et plutôt que de l'imposer. J'ai commencé la contrebasse très 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 jeune, la musique de jazz vers 12-13 ans. Donc je n'ai jamais fait que ça de toute ma vie. Bon, j'ai eu des périodes où j'ai accompagné des idoles, comme on disait dans le temps, des vedettes de variété. Et voilà, et depuis, je suis mon chemin. Le dernier album, ça doit être le 26e sous mon nom. Je suis un homme blanc, français, d'origine bretonne.
Dans les oreilles de...
Et c'est l'itinéraire de ce Titi Jazz que l'on découvre ensemble ce matin des Batignolles au Festival de Newport. Henri Texier nous offre une virée dans les clubs de jazz, sur les scènes des salles les plus prestigieuses, celles où il accompagnera les idoles de Chet Baker à Don Cherry, en passant côté français par Sacha Distel et la très politique Colette Magnier, l'auteur des Là-bas, titre qui a fait le bonheur des producteurs et de toutes les aventures, du rock expérimental avec Total Issue jusqu'aux créations qui mêlent musique et images, notamment en Afrique avec le photographe Guy Le Kérec, puis au cinéma avec Bertrand Tavernier pour qui il signe la BO du film Oli Lola. Hétéroclite Lockdown, son 28e album, est sorti hier, accompagné d'un livre d'entretien à cordes et à cris. L'occasion de revivre ensemble quelques temps forts de cette vie musicale bien remplie. Et pour commencer, Henri, par quelle musique souhaiteriez-vous vous présenter aux auditeurs? Un morceau, disons, qui donnerait le la de cette émission?
Ben, je dirais une composition de Miles Davis. D'un album qui s'appelle Milestones.
Pourquoi vous choisissez ce morceau pour ouvrir l'émission?
Parce que c'est, aussi loin que je me souvienne, Miles Davis et son univers, et à cette époque-là surtout, a été quelqu'un qui m'a énormément influencé. C'est un peu avec lui que j'ai pu m'ouvrir au jazz d'une manière large, parce que quand j'étais gaminou, je jouais du piano et je jouais du jazz ancien, du jazz Nouvelle-Orléans, et très vite je suis passé au jazz moderne. Et les premiers musiciens de jazz moderne que j'ai entendus, parmi les tout premiers, il y a Miles Davis. Et en particulier ce disque-là.
Thank you.
Dans les oreilles de
Henri Texier.
Miles Davis sur Radio Nova. Radio Nova qui a donné carte blanche ce matin au célèbre contrebassiste Henri Texier. Le musicien a choisi Milestones, ce disque sorti en 1958 par le trompettiste, pour se présenter à nous. Et oui, il s'agit ici d'une pierre fondatrice, du fondement de sa vocation. Henri Texier, que l'on retrouve tout jeune du côté des Batignolles à Paris.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Ay, así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Está perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así, así, así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Ay, quizás, quizás, quizás. Pero ¿cuándo?
Dans les oreilles.
Non pas.
Dans les oreilles de
Henri Texier.
Quizás, 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 célèbre boléro cubain écrit en 1947 par Osvaldo Fares, moult fois repris. Hein. Nat King Cole, Celia Cruz ou encore Ferrus l'ont adapté, tout comme le chanteur Dario Moreno que vous entendiez à l'instant sur Radio Nova. Et pourquoi Dario? Eh bien, réponse tout de suite avec notre invité ce matin, le contrebassiste Henri Texier.
Le plus lointain qui soit, chez moi, il y avait un électrophone. Les chaînes IFI n'existaient pas. Enfin, pas chez moi en tout cas. Sur le poste de radio. Il y a un chanteur qui a complètement disparu. Enfin, du moins dont on ne se rappelle plus du tout, qui s'appelait Dario Moreno. C'était un chanteur qui se faisait passer pour, sud-américain, alors qu'il était libanais. C'était un grand chanteur, hein. Et qui faisait de la musique typique, comme on disait à l'époque. Voilà,
comme dans les orchestres de Xavier Cugat.
Exactement. On appelait ça de la musique typique, mais ça aurait pu être appelé de la salsa variétisée, vous voyez ce que je veux dire.
Et les caravanes prient à genoux, une première étoile au ciel insondable.
Et c'est ça qui sortait de l'électrophone quand vous étiez enfant?
Oui, de la radio. La radio, mais pas seulement. Il y avait aussi évidemment tous les chanteurs français, etc., etc. C'était ce que, par exemple, mes grandes sœurs écoutaient. Elles aimaient bien ça parce que c'était dansant, puis c'était assez rigolo. Mais le premier souvenir de musique de jazz, je savais même pas que c'était du jazz. C'était Sidney Bechet, qui était une immense vedette, aussi grande vedette que Edith Piaf ou des gens comme ça, ou après Jacques Brel, etc. rend pas compte, ça existe plus, ça, un musicien qui fait de la musique instrumentale, sans qu'il y ait des paroles, ni des pas de chansons. Depuis, il n'y a pas eu quelqu'un d'aussi célèbre. Petite fleur, et puis il y avait un autre morceau qui était vachement bien, qui s'appelait « Dans les rues d'Antibes ».
Et vous diriez que c'est ça la première musique que vous soyez appropriée étant enfant, c'est-à-dire que dans le bain musical environnant, c'est la première musique qui vous a attrapé.
Oui, absolument. Ouais, absolument.
Qu'est-ce qui vous plaisait ?
Alors là, le rythme, le tout, mais le rythme. Puis les gens dansaient beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de balles, beaucoup de toutes les réunions, tout le monde dansait, puis dansait plein de danses différentes. Il y avait des danses avec des pas, des connivences avec les couples, etc. Donc c'était des musiques qui me plaisaient beaucoup.
Voilà. Nova, dans les oreilles de...
Henri Texier.
Oh, je crois que mon premier album, j'ai dû acheter mon premier 33 tours. J'ai pas acheté de 45 tours. J'ai acheté mon premier 33 tours, je devais avoir, je sais pas, 14, 15 ans maximum. Et c'était un disque de Thelonious Monk, en solo.
Vous êtes allé où, vous vous souvenez ?
Ah oui, c'était au Square des Batignolles, je me rappelle parfaitement. J'habitais le bas de l'avenue de Clichy, là, dans la gare des Batignolles. Et autour du Square des Batignolles, il y avait un magasin d'électroménager. Et dans la vitrine, il y avait des disques. Ils vendaient des disques aussi. En vitrine, il y avait ce disque magnifique avec une très belle photo en noir et blanc du visage de Thelonious Monk, dont je connaissais le nom déjà, parce que je me suis très très vite intéressé à tous les grands musiciens de jazz moderne. Et donc, c'était le premier album que j'ai acheté. Voilà.
Vous avez commencé la musique à quel âge ?
Oh, ma mère m'a fait apprendre le piano, entre guillemets, classique. J'aimais pas du tout la musique classique, j'aimais pas la musique de bal, musette. Elle m'a fait apprendre le piano, je sais pas, je devais avoir peut-être 8-9 ans, 9-10 ans. Et puis très vite, je me suis mis à jouer des boogie-woogie, des choses comme ça, en écoutant Sidney Bechet. J'avais un petit copain qui habitait le bas d'avenue de Clichy avec moi, là, un Antillais, qui s'appelait Alain Tabarnouval et que j'avais rencontré en revenant du lycée. Et tous les deux, on se passait des 45 tours, etc. Des musiques de jazz Nouvelle-Orléans. Et après, on a acheté des 45 tours de Louis Armstrong. Mais j'ai pas été très loin au piano. C'était pas du tout mon instrument. Quoi.
Oui, c'était le premier. Et quand est-ce que vous êtes passé à la contrebasse ?
Bah, vers 16 ans. Parce que entre-temps, on avait rencontré d'autres petits camarades. En passant des annonces dans Jazz Magazine et Jazzot, qui étaient les revues de jazz, on connaissait personne. On était dans notre coin tous les deux, là. Il y avait un troisième aussi qui jouait de la guitare, mais qui a pas suivi l'histoire. Et puis, on a cherché un batteur, un bassiste. Enfin, voilà, il y avait un vibraphoniste qui est venu aussi, qui jouait de la guitare. Et puis le contrebassiste, il laissait sa contrebasse dans le coin du piano chez moi. J'avais un piano droit que mon père avait récupéré dans un déménagement gratos. Et il la laissait tout le temps là. Lui, en fait, ça n'intéressait pas beaucoup. Lui, il voulait faire frimer ou faire des sous avec. Mais on faisait pas de sous, nous. Et là, ce camarade vibraphoniste qui était plus âgé que nous, il jouait aussi de la guitare. Et un jour, il était en avance. On jouait dans ma chambre, on répétait dans ma chambre deux fois par semaine, le jeudi et le samedi. Et ça, mes parents, ils étaient cool. Hein. Et donc il prend la contrebasse et puis il joue une ligne de basse. Et il me dit, tiens, joue le blues en si bémol. Joue le blues en si bémol, bon, à ma façon, comme je me pouvais. Et il joue une très belle ligne de basse avec cette contrebasse qui était toute moche et qui très ordinaire. Et là, ça a été la révélation. C'est pour ça que je dis que la contrebasse m'a choisi, parce que jusque-là, je ne l'entendais pas vraiment. J'ai commencé à saisir cet instrument, mais il n'y a pas de case, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de repère. C'est comme un gros violon, quoi. On ne sait pas où mettre les doigts. Et il m'a montré sur une des cordes l'endroit où il y avait le do. Et là, j'ai collé un petit morceau de papier, et me voilà. J'ai emprunté à 10 personnes différentes pour acheter une contrebasse. D'abord, ma mère m'a offert une contrebasse, une petite contrebasse en contreplaqué, pas chère, mais qui était nettement mieux que l'autre, que je pouvais jouer, vraiment. Puis après, j'ai emprunté pour acheter un très bel instrument que j'ai gardé pratiquement toute ma vie, que je viens de vendre il y a quelques mois, là.
Dans les oreilles de
Henri Texier.
Alors là, on parlait des jazzmen dont vous étiez, on peut le dire, peut-être fan. Est-ce que vous vous souvenez des premiers concerts auxquels vous avez assisté?
Alors le tout premier concert, c'était de nouveau Sidney Bechet au Bal du Bac.
C'est quoi le Bal du Bac?
Le Bal du Bac, c'était tous les ans, après le Bac, il y avait un bal qui était organisé dans Paris, et en l'occurrence à la Salle Wagram, qui était un endroit génial, qui a été transformé en immeuble. C'était un endroit magique, où on faisait de tout dans cet endroit-là. Des bals, des réunions, de la boxe. Enfin, c'était un endroit incroyable. Et puis des bals d'école aussi. Et ça, c'était un peu assimilé aux bals d'école. Les grandes écoles organisaient des bals où il y avait pas mal de musiciens de jazz qui étaient programmés. Et là, la vedette, en l'occurrence, c'était Sidney Bechet. Et c'est le premier grand musicien que j'ai vu en vrai, quoi. Et j'avais 14 ans.
Et vous avez enchaîné les concerts quand même après, ou pas spécialement? Non, c'est vous qui jouiez en fait.
Oui, mais j'enchaînais pas pour la bonne et simple raison que j'avais pas de sous pour y aller, parce que c'était pas donné les concerts. Et le premier concert auquel j'ai assisté de jazz moderne, c'était justement Miles Davis à l'Olympia. C'est un copain, j'avais 15 ans. C'est un copain au lycée qui avait acheté deux places pour aller avec un ami à lui, et puis l'autre s'est désisté, il m'a proposé, et mes parents ont accepté que j'y aille, ils m'ont donné les sous, et voilà. Mais sinon, j'ai vu assez peu de concerts. Après, très vite, comme j'étais grand pour mon âge, je commençais à avoir du poil au menton, je me glissais dans les clubs, je m'infiltrais dans les clubs. Et puis, au bout de 2-3 fois, les patrons m'avaient repéré, parce que j'étais comme un fou, j'adorais tellement ça. Je me mettais dans un petit coin, et discret. Et là, j'allais écouter les musiciens en vrai, mais c'était pas la même chose que la salle Playel ou les grands concerts comme l'Olympia, etc.
C'était quoi les clubs à Paris à cette époque?
Les deux plus prestigieux, c'était le Club Saint-Germain à Saint-Germain-des-Prés, le fameux Club Saint-Germain où Miles a joué, etc. Juliette Gréco, tout ça. Mais c'était la fin, là, quand moi je pouvais sortir. Il y avait aux Champs-Élysées le Blue Note. Ça, c'est un club dans lequel j'ai beaucoup joué par la suite. Et au Quartier Latin, de nouveau, il y avait le Caméléon. Le Caméléon et le Chat qui pêche. Ça, c'était les deux grands clubs de jazz moderne. Et le Chat qui pêche, où j'allais très souvent, il y avait pas mal de... C'était presque comme un club d'avant-garde. Et le chat qui pêche, c'était un trou à rat en fumée, mais c'est même pas imaginable maintenant qu'on puisse rester une minute dans un endroit pareil. Quoi.
Et alors, pour qu'on comprenne, par rapport à l'époque, est-ce que c'est l'époque également des yéyés en France ? C'est-à-dire, est-ce que là, les clubs de jazz dans lesquels vous vous rendez, ils existent en même temps qu'il y a, je sais pas, le club de Rouault où tout le monde se produit ? Est-ce que le jazz est aimé des jeunes ? Est-ce que c'est une musique nouvelle à ce moment-là, quand même, encore ?
C'est-à-dire que le jazz, ça a toujours été une musique plus ou moins marginale, plus ou moins mal aimée, voire maudite, et c'est toujours le cas. Mais les amateurs de jazz, c'était les amateurs de jazz. Et ils pouvaient aimer autre chose, mais c'est la plupart des jeunes, comme on dit, entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, il n'y avait pas que les jeunes, mais bon, en particulier, ils sont passés au yéyé, mais en venant du rock, en venant des gens comme Bill Haley, des gens comme Elvis Presley, tout ça. Puis il y a eu cette mode des yéyés en France. La plupart des pâles copies de ce qui se faisait aux États-Unis, à part quelques mecs qui étaient des vrais Américains qui étaient installés ici, puis ça, c'était chouette. Mais oui, le golf trou, j'ai joué au golf trou aussi, mais un peu plus tard, mais j'y étais passé pour voir qu'est-ce qui s'y passait, quoi. Oui, c'est la même période. Mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je trouvais que c'était nul.
Vous, vos premiers concerts dans des salles, disons, un peu importantes, c'était, vous aviez quel âge et c'était dans quelle salle ? Vous disiez que vous avez joué au Blue Note.
Alors, les clubs, tous les clubs très tôt. Hein. Vraiment, tous. Parce que à cette époque-là, quand je circulais pas mal et je disais, tiens, t'as pas un remplaçant. J'étais remplaçant, surtout. Et notamment au Blue Note, où je suis devenu remplaçant attitré du contrebassiste qui travaillait là en permanence. Et ce qui m'a permis de jouer avec des immenses musiciens de passage, les sections rythmiques, on appelait ça, accompagnaient.
Et donc c'était qui ces musiciens ?
Il y a eu Dexter Gordon, Lee Konitz, Chet Baker, Bud Powell. La liste est énorme.
Zoé Khalifa.
Dans les oreilles de
Henri Texier.
le saxophoniste ténor Dexter Gordon sur Radio Nova ce matin, qui est plongé dans les oreilles d'Henri Texier. Soy Khalifa, morceau d'ouverture de Swinging Affair, un album enregistré en 2 jours par le saxophoniste Dexter, que notre invité ce matin a accompagné dans les années 60 dans un club nommé le Jazzland. Henri Texier qui compile les chapitres de sa vie musicale dans Accords et Acris, un livre d'entretien avec Gilles Médioni, et puis aussi avec nous ce matin jusqu'à 11h. Dans quelques minutes, sachez qu'il nous fait traverser les mers et même l'océan.
What kind of am I, who never fell in love? It seems that I'm the only one that I've been thinking of. Tell me, what kind of man is this? An empty shell, a lonely cell which an empty heart may dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I fall in love like any other man? And maybe, maybe then I'll know what kind of fool I am. Tell me, tell me, what kind of clown am I? What do I know of life? Why can't I cast away the mask of play, darling?
Les oreilles de
Henri Texier.
En 1970, sur son disque Soul on Top, James Brown reprenait le standard What Kind of Fool Am I? Et pour comprendre comment James Brown se retrouve dans les oreilles de notre invité ce matin, le contrebassiste et chef d'orchestre Henri Texier, eh bien, il nous faut remonter un fil, celui de ses années aux côtés de Phil, justement, dans l'European Rhythm Machine.
Le vrai concert dans une vraie salle très prestigieuse, ça a été avec Phil Woods, un musicien qui s'est installé en France, avec lequel j'ai joué beaucoup, et avec lequel j'ai voyagé dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis, à 24 ans. Et là, 69, on joue à Playel. Voilà, c'était la première grande salle. Et c'était très prestigieux, Playel. S'il y avait de temps en temps des très grandes vedettes de jazz qui passaient là, comme Ella Fitzgerald et compagnie, c'était soit Playel, soit l'Olympia.
Et alors, avec Phil Wood, vous faites partie de sa formation qui s'appelle l'European Rhythm Machine, c'est
exactement,
ça?
Exactement. Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation? Et d'ailleurs, même pour présenter aux auditeurs, qui était Phil Wood?
Alors, Phil Wood, c'était un des 4 ou 5 meilleurs saxophonistes alto à l'époque.
au monde. Par exemple, c'est quelqu'un qui a joué énormément avec Quincy Jones, qui a accompagné qui a beaucoup joué en grand orchestre, c'était un premier alto. Et donc, il est venu s'installer à Paris, et comme je jouais beaucoup avec un batteur qui s'appelle Daniel Humer, il s'est adressé à Daniel Humer pour essayer de constituer une section rythmique pour l'accompagner, justement, dans ce club au Caméléon. Mais à l'époque, quand on jouait dans un club, on restait un mois, hein, on restait pas deux jours, ou un set, ou deux sets. Et de là, très vite, il circulait de grande capitale en grande capitale. Et puis, il s'est très vite rendu compte que ce qu'il préférait faire, c'était jouer avec nous. Je suis passé de presque rien à toutes les grandes capitales européennes. Et puis, je vous dis, ça s'est terminé. Enfin, ça s'est pas terminé, mais entre autres... au festival de Newport aux États-Unis. Et là, j'ai 24 ans, quoi.
Ah oui, c'est incroyable.
C'était fulgurant. Tout d'un coup, j'ai tous mes rêves d'enfance, quasiment, parce que...
Et puis vous côtoyez vos idoles, j'imagine, dans les grands festivals à Newport, qui jouent en même temps que vous jouez à Newport.
Oh là, il y a tout le monde. Il y a Herbie Hancock, il y a Miles, il y a Wayne Shorter. Mais c'est en plus le festival de 69, c'est très mélangé. Il y a James Brown, il y a Jeff Beck, il y a... C'est complètement hallucinant. Il y a Sly and the Family Stones, Earth, Wind and Fire, il y a des trucs, mais de dingue.
On quitte la scène pour retrouver votre discothèque Henri. Quel est le disque qui vous suit depuis le plus longtemps?
Ça va pas être très original, mais c'est Miley Stones de Miles Davis. Parce qu'à part le morceau qu'on a écouté pour ouvrir l'émission, tout l'album est extraordinaire. Et c'est un album absolument historique. C'est-à-dire qu'à partir de ces disques-là, il y a eu Miles Stones et Kind of Blue, ces deux disques qui étaient avec pratiquement les mêmes musiciens, ont changé l'histoire du jazz, tout simplement. Et ont changé l'histoire de ma vie aussi. Ma vie musicale, entre autres, mais pas seulement. Parce qu'à partir de là, quand on a ce genre de passion et qu'on a un tel chef-d'œuvre, comment dirais-je, on tisse des relations très, très sensibles avec les gens qui sont aussi sensibles à cette musique.
C'est-à-dire des rencontres de musiciens avec lesquels vous vous mettez à travailler.
Aussi bien mon plombier que des peintres formidables, des comédiens, des cinéastes. Et puis moi, ça m'a inspiré aussi pour ma propre pratique. Un peu comme si, ça développait en vous une sorte d'équilibre particulier qui faisait que quand on partageait sa passion, les gens la ressentaient profondément.
Et alors ensuite, donc on est dans une période, là on évoque le milieu des années 70, c'est les années où vous sortez vos premiers disques en tant que leader. Il y a donc Amir qui est votre premier disque, qui est quand même tourné et nourri des musiques...
De mille et une musiques,
là oui, pour le coup on n'est plus uniquement dans le jazz à ce moment-là.
C'est-à-dire que le jazz à cette époque-là, il n'y a pas que moi, est en train de se libérer, c'est pas vraiment le... Mais je trouve pas le mot exact. De s'émanciper par rapport au jazz américain, pratiquement jusqu'au début des années. Mais c'est un mouvement mondial, il y a Woodstock, il y a tout ça, tout explose. Il y a Peace and Love, Baba Cool,
il y a le regard qui est aussi beaucoup tourné sur l'Inde.
Mais bien sûr, et puis l'explosion sexuelle, tout pète dans tous les sens. Là, c'est 68, c'est la zone absolue. Créative, pas toujours. Et là évidemment, c'est un courant général. Mais moi, je m'intéressais déjà à la musique indienne depuis un bon petit moment, via Ravi Shankar, mais d'autres musiciens que j'avais découverts avec des amis.
«
on se laissait tous influencer. Il y a des musiciens de jazz qui ont été plus influencés par la musique contemporaine, par la musique classique, par etc., etc. Moi, c'était tout ce qui était un peu méditerranéen, lointain, quoi, africain, nord-africain, balkanique, et puis aussi mes racines celtiques. Parce que là aussi, toute la folk music, toute la musique irlandaise, etc., c'est extrêmement présent dans le folk, ne serait-ce que le folk aux États-Unis. Et donc, j'ai éprouvé le besoin de mélanger tout ça. C'était simplement ce que j'entendais. J'entendais ça. Et d'ailleurs, je l'entendais tellement, d'une manière tellement particulière que je l'ai enregistré en tout seul. Ces trois disques.
Oui, c'est ça, il y a la pratique du re-recording.
Exactement, c'est-à-dire maintenant on fait pareil, on peut faire pareil, mais avec des ordinateurs. C'est beaucoup plus simple maintenant. Mais à l'époque, pour enregistrer 16 pistes, les magnétos, ils faisaient 16 pistes, pas plus. Donc il fallait, avec des bandes qui faisaient 10 cm de large. Donc là, mais il y avait un appareil, un magnéto, qui s'appelait le Revox, un magnéto qu'on pouvait se procurer facilement. Avec lequel on pouvait enregistrer jusqu'à 10 pistes. Mais au bout de 10 pistes, c'était plus très clair, tout ça. Mais donc, j'ai travaillé avec ça.
Et c'est comme ça que vous avez enregistré cet album. Et voilà. Varech également ?
Pareil, oui.
Varech.
Et Accords et Acryl, le troisième, dans lequel il y a des invités.
Alors, ce deuxième album, je le cite parce que le morceau d'ouverture, il me semble, est là-bas, est un morceau qui a été beaucoup samplé par des jeunes générations de musiciens. Vous aviez ouvert avec ce morceau. Peut-être que vous pouvez nous en parler, de comment il est là-bas. C'est justement tous ces ailleurs qui sont là depuis Amir. C'est quoi ?
C'est quoi ? J'ai aussi une certaine influence de ce qu'on appelait la pop musique à l'époque. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais c'était un peu, on dirait du rock progressif. C'est-à-dire la musique plutôt évoluée, instrumentale, mais avec des bases de rock, etc. Et moi, j'ai mélangé ça avec des rythmes berbères. Je me suis rendu compte que c'était des rythmes berbères après, mais tout ça, c'était comme des souvenirs qui arrivaient, et que j'assemblais. Mais je ne peux pas vous dire d'où ça vient vraiment. Moi, quand je pensais aller là-bas, je pensais plutôt à quelque chose vers l'Afrique. Mais c'est tout, sans plus.
Da 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 da
les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de...
Henri Texier.
Les Là-bas sur Radio Nova, extrait du deuxième disque d'Henri Texier, disque sorti en 1977, qui, comme Amir, son premier album, est entièrement composé par le contrebassiste en re-recording. Les Là-bas, qui sera samplé plus tard par Bonobo, par Chinese Men et bien d'autres producteurs, inspirés par un Texier qui a été, il faut bien le reconnaître, totalement précurseur dans cette manière de travailler. Un morceau porté par les rythmes berbères, et si l'on parle de composition, Henri, est-ce que vous avez des images qui vous viennent quand vous composez ?
Ça dépend. Il y a toutes les... Ça peut être des images, ça peut être un mot, ça peut être un article que je vais lire dans un journal. Il m'arrive aussi de m'arrêter, puis d'écrire, d'entendre un peu de musique, et puis de commencer à l'écrire, à la développer. Et je ne sais pas à quoi elle correspond. Et puis chez moi, j'ai des listes de mots, de titres, etc. Alors des fois, je vais regarder dans ma liste de titres s'il n'y a pas quelque chose qui correspond à la musique que je viens de trouver. Et puis souvent, je ne trouve pas, ils ne correspondent pas. Donc ça vient de ce qui se passe là autour de moi, dans le moment.
Et justement, là, on parle de plusieurs séquences. Vous avez travaillé également avec le cinéma, notamment avec Bertrand Tavernier.
En tant que compositeur et interprète aussi, parce que je jouais aussi les musiques. J'ai travaillé pour un peu toutes sortes d'art de la scène et de l'image. Et en ce qui concerne l'image, moi, j'ai travaillé pour le théâtre, j'ai travaillé pour même avec des artistes de cirque, un peu avant-gardistes. J'ai travaillé, enfin, dans mille et une circonstances. J'ai même accompagné des stripteaseuses. J'ai composé pour le théâtre et pour la télévision. Donc, trois ou quatre films de télévision à la demande de Jean-Louis Bertuccelli. Dont un de ces films pour lequel j'ai fait la musique en live, à l'image, qui s'appelle « Rempart d'argile ».
شوفوا وراه البحر شفتوه بعيد علينا بزاف شوفوا كاع
très beau film qui était son premier film et dont Bertrand Tavernier était l'attaché de presse. Il n'était pas encore cinéaste quand et puis par la suite j'ai fait une musique de film pour Idrissa Ouedraogo qui était un cinéaste malien et puis le dernier que j'ai fait c'est avec Bertrand Tavernier le film Oli Lola.
Bertrand Tavernier, grand mélomane, érudit en ce qui concerne le jazz.
En ce qui concerne tout.
Oui, c'est vrai.
Terrible.
Et qui avait une vision très précise de la musique dans ses films.
Oui, enfin, surtout, il faisait très, très confiance aux musiciens, mais il avait une vision auditive, si je puis dire. Il avait une vision auditive très précise. Il donnait des indications. Par exemple, quand j'ai travaillé avec lui, il me disait « Allez donc voir ce film, c'est un joli petit film, mais c'est exactement ce que je veux pas comme musique. » Ou alors il me disait « Allez voir tel film, c'était un truc, un polar australien, dont je me souviens pas le titre. » Il dit « Vous verrez, la musique, ça colle vachement bien, etc. » Et puis on a travaillé tous les deux, tout le temps. Il a choisi l'instrumentation, on a choisi l'instrumentation des musiciens qui allaient enregistrer la musique ensemble. Et puis, moi, j'ai enregistré des maquettes en amont, qui d'ailleurs, il a fait écouter aux acteurs sur place, au Cambodge. Il leur faisait faire trois choses obligatoires quand ils arrivaient préparatoires. Il les emmenait voir le musée du massacre des Khmers Rouges, la plus grande décharge du monde, terrible. Et puis, il leur faisait écouter la musique. Ça fait trois trucs redoutables. J'exagère. Et les J'ai rencontré beaucoup des comédiens après, c'était passionnant. Et beaucoup m'ont dit que ça avait participé du climat dans lequel ils avaient pu se mettre pour interpréter le film.
les oreilles de...
Henri Texier.
Est-ce qu'il y a un disque que vous avez beaucoup aimé transmettre? Donc vous êtes aperçu que vous l'avez beaucoup partagé.
Oh là. Et oui, il y en a un, en dehors de, toujours de Miles. Il y a un disque de Charlie Mingus que j'ai beaucoup partagé, qui s'appelle Ahoum. C'est encore une fois de plus un chef-d'œuvre. Parce que Mingus, il a pas mal changé de musicien. Mais là, il y a une équipe extraordinaire. Et pareil, c'est un disque qui a marqué... Enfin, moi, qui m'a marqué, parce que... En tant que contrebassiste, bien sûr, mais plus... Pas seulement, et pas tellement en tant que contrebassiste, mais plus en tant que chef d'orchestre, en tant qu'organisateur de la musique, en tant que catalyseur des énergies... des gens avec lesquels vous jouez, en tant que leader, en tant qu'architecte aussi de la musique. Ça, c'est des disques que j'ai... Un disque que j'ai énormément partagé, puis il y en a un autre aussi, un disque en trio d'un batteur formidable qui a beaucoup joué avec Bill Evans, par exemple, qui s'est fait connaître avec Bill Evans. Il s'appelle Paul Motion. C'est grâce à lui si j'ai découvert Joe Lovano, Bill Frisell, enfin tous ces grands musiciens avec qui... que j'ai invité à venir jouer avec moi après, par la suite. Il y en a un Live in Tokyo, par exemple. Ça, c'est magnifique. Tous les disques de Paul Motion sont formidables. Tous. Il n'y en a pas un qui est moche. Pas un qui est faible. Pas un seul. Là, il y a là, d'abord son jeu de batterie qui a beaucoup, beaucoup marqué. C'est un des batteurs qui a un peu, oui, même pas mal dans les années 80, un peu transformé le jeu des batteurs en général. Parce qu'il y a des musiciens comme ça, même si ce ne sont pas des musiciens des immenses stars, ce sont des musiciens phares. Et une fois qu'ils sont apparus, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de leur manière de jouer. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous remettre en question. Et beaucoup de batteurs se sont remis en question par rapport à Paul Motion. Et aussi beaucoup de compositeurs, parce que c'est un compositeur magnifique, très sensible, très beau, d'inspiration assez orientale aussi, lui-même étant... d'origine turque-arménienne, là, ça fait attention l'oxymore, mais c'est vrai, enfin plus exactement, arménien d'Istanbul, il avait cette sensibilité très méditerranéenne, moyenne-orientale, tout en étant un jazzman accompli, ayant joué avec tous les plus grands, avec Monk, enfin Coltrane même, mais pas enregistré, donc ça se sait pas. Et voilà, et donc, et puis aussi comme architecte, la manière dont il distribue la musique, dont il organise la musique. Tous ces musiciens-là, ce qui me plaît beaucoup, donc ces leaders-là, c'est qu'ils n'utilisent pas les musiciens avec lesquels ils jouent. Même s'il y a un climat délétère dans l'orchestre, ça pouvait arriver, mais ils ne les utilisent pas musicalement, ils les mettent en valeur. Et moi, je trouve ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi, en tant que leader. C'est ce, en tout cas, moi, ce que je m'efforce de faire.
Dans les oreilles. Nova. Dans les oreilles de...
Henri Texier.
Et alors là, on va... parce que vous avez une très très grande discographie.
Pas mal.
Et
hein.
On a une heure d'émission.
Il y en a trois heures.
Le dernier disque que j'ai entre les mains, qui sort, qui est sorti hier, qui s'appelle Hétéroclite Lockdown. Vous êtes en leader, mais il y a votre fils, Sébastien oui. Texier et Gauthier Garry. Quelle musique ont accompagné la composition de ce disque? Qu'est-ce que vous écoutiez au moment où vous avez composé ce disque?
Ah, ben ça, je m'en souviens pas, alors. Ça, je... alors, si, des choses qu'on n'a pas l'habitude, qu'on avait sans projet particulier, sans concept particulier, simplement le plaisir, la beauté du geste, de jouer, par exemple, cette composition de Thelonious Monk qui s'appelle One About Midnight, qui a été jouée des milliards de fois par des milliards d'immenses musiciens. Mais c'est une composition extrêmement sensible, très très belle. Et donc, c'était simplement avoir le plaisir de passer au travers de cette beauté. Et moi, il y a dans ce disque, encore plus ancien. Et plus, encore plus joué, c'est Besame Mucho. Ça, moi, j'ai toujours rêvé de jouer ce morceau-là, puis ça s'est jamais trouvé, parce que, on enregistre des originaux, on travaille sur des répertoires particuliers... Et amener Besame Mucho, c'est pas toujours évident. Et là, je me suis dit, on va jouer Besame Mucho. Et pour ce faire, et c'est là que... Alors, je suis allé écouter pas mal de versions de Roundabout Midnight. Et j'ai écouté combien de versions, évidemment, dans Internet, de Besame Mucho. Et il y en a des très belles. Et il y en a une qui va peut-être vous surprendre. Mais... de Julio Iglesias.
Ah oui?
Carrément. Ouais. Ouais, ouais. C'est magnifique.
Qui est une des plus jolies que vous ayez entendues.
Ah ouais?
Ah oui.
Ah, carrément.
Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Il le chante en duo avec une chanteuse dont j'ai pas vu le nom, avec une orchestration. Alors évidemment, c'est un chanteur de variété, c'est pas du free jazz, hein. Mais l'orchestration est splendidissime. Il y a un oud et une guitare, ça c'est rarissime dans les. Il y a un oud et une guitare qui joue des contrechants, c'est magnifique. Puis lui, il chante terrible.
Bon, on va découvrir.
Ah, mais il chante vachement bien, Julio Iglesias.
Et quel est le dernier morceau que vous avez écouté avant de venir?
Peut-être un morceau de l'album.
Et alors, dernière question. C'est quoi la musique pour vous? Qu'est-ce que ça représente?
C'est, alors sans employer des grands mots, c'est le meilleur véhicule de l'humanité et universel. Tout le monde peut y trouver sa sensibilité, tout le monde peut y trouver des images, tout le monde peut y trouver la liberté, la légèreté. Tout le monde peut trouver dans la musique le drame. Tout est possible avec la musique. Et on n'a pas besoin d'expliquer.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci à Henri Texier d'avoir partagé avec nous ses souvenirs de musique, témoignages précieux qu'il livre également, je vous le rappelle, dans un livre d'entretien avec Gilles Médioni. Ça s'appelle Accords et Acris. Je vous invite également à vous laisser porter par son dernier disque Hétéroclite Lockdown, réalisé en trio avec Sébastien Texier et Gauthier Garrigue, et qu'ils joueront le 12 février prochain au Théâtre de l'Athénée à Paris. Enfin, merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est dès à présent disponible en podcast et en version augmentée. Et puis moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes côté Grand Mix.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova. Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.